canard. Ah non, il faut choisir. Un lapin ou un canard ? Un canard, un lapin. Bon, on ne va pas créer de polémique. C'est, on peut avoir deux perspectives différentes sur une même image. Et vous voyez, ça illustre notre humanité. L'humanité tout entière peut être en désaccord sur une image. Et l'humanité est en désaccord sur le texte que nous avons lu. Pour certains, la mort de Jésus est un épisode triste, fâcheux, certes injuste, mais sans plus. C'est une fatalité. Ça devait arriver. Il a tellement clivé Jésus, il a tellement créé de polémiques. Le révérend Moon, qui était le patron, le chef de la secte Moon, a dit « La mort de Jésus manifeste son échec ». C'est une perspective. Il voit le canard. Mais d'autres voient un lapin. Je sais ce que vous vous dites, bien sûr, il y a l'autre point de vue. Mais la différence n'est pas aussi nette qu'on le croit. Bien sûr, en vous présentant ça, en vous parlant de la mort de Jésus, vous vous dites, ben nous on est dans une église, donc c'est évident pour nous. Ben, ce n'est pas si évident que ça. Regardez Luc, chapitre 24, verset 18. Prenez vos Bibles dans Luc, chapitre 24, verset 18. On a deux disciples qui fréquentaient certainement les réunions avec Jésus, qui ont entendu tous les enseignements de Jésus. Des gens bien, quoi. Comme nous. Luc chapitre 24, verset 18. Regardez ce que dit l'un des disciples. Il s'appelle Cléopas. Et il dit, « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est produit ces jours-là » Il est vraiment sûr de ce qui s'est produit. Hein. « Ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamnés à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que tous ces événements se sont produits. » Vous voyez, même des disciples ne comprennent pas réellement de quoi il s'agit. Et pourtant, ce sont deux disciples. Donc, avoir une juste compréhension des événements n'est pas si facile que ça, c'est pas aussi évident que ça. Et c'est ce qu'on va voir dans ce texte que nous avons lu. Marc va nous montrer un côté manichéen de la mort de Jésus. Pour certains, on a dit c'est un échec, c'est la fin d'une aventure, les disciples d'Emmaüs, ça y est, c'est fini. On pensait qu'il délivrerait, mais c'est foutu, ça y est, il est parti. On a fait le maximum et c'est fini. Et pour d'autres, eh bien, la mort de Jésus, c'est un renouveau d'espérance. Jérémie l'a lu, Dieu est un Dieu d'espérance. Et j'aimerais ce matin que chacun de nous, nous puissions adopter ce regard du Dieu d'espérance, qui ne nous laisse jamais tomber, qui est un rocher. Jérémie a tellement insisté dessus, merci. C'est une espérance attendue depuis la chute, depuis le péché d'Adam et Ève. L'humanité est sous la malédiction du péché et Jésus est venu apporter une espérance. Regardez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 1,18. La prédication de la croix, c'est ce qu'on va faire ce matin. C'est une folie pour ceux qui périssent. Si on ne croit pas en Jésus, on périt, c'est une folie, ça ne sert à rien, la croix. Jésus est mort, c'est perdu, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Donc déjà, la question va se poser maintenant, est-ce que l'évangile est une folie pour vous, ou est-ce que c'est une puissance de Dieu sur laquelle je peux m'appuyer dans ma vie quotidienne? C'est ça la question du jour. Et la question cruciale du jour, c'est dans quel camp je suis? Chacun ici doit se poser la question. Il y a des gens qui sont dans le camp de Jésus depuis des années. D'autres qui vont passer dans le camp de Jésus, qui sont déjà passés, mais qui vont se faire baptiser, donc témoigner publiquement qu'ils sont passés. Peut-être d'autres ici ce matin sont en train de se poser la question. Ils ne sont pas tout à fait sûrs encore. Et c'est important de se poser la question dans quel camp je suis. Et je prie pour que cet évangile qui sera prêché ce matin touche le cœur de chacun. Que chacun puisse comprendre que cet évangile ne soit pas voilé. C'est Paul qui dira... Nous, nous prêchons Christ crucifié. C'est un scandale pour les Juifs, une folie pour les païens, mais une puissance de Dieu et une sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. C'est ce que je vais essayer de faire ce matin, prêcher l'évangile du Christ pour que derrière, chacun puisse bien choisir son camp. Et vraiment, je prie, j'ai prié pour chacun de vous pour que vraiment tout le monde puisse choisir le camp de Jésus-Christ à l'issue de cette prédication. Alors, à la lecture de ce texte, on a une première constatation, c'est que c'est comme un film qui se déroule. Marc est extrêmement concis, sobre, il est très clair, il est très solennel. Il n'y a pas de détails scabreux. On n'est pas dans le film de Mel Gibson, La Passion de Christ. C'est facile à comprendre. Dans ce film, on capte plein de détails. Il y a plusieurs étapes. Donc, une première étape, Jésus monte à Golgotha. Aucune parole n'est exprimée à ce moment-là. Et puis, il y a la période 9h midi. Jésus est crucifié à 9h. Et là, c'est la période des insultes, des moqueries. Je ne vais pas revenir là-dessus, le texte est vraiment clair. Ça n'a pas d'intérêt, on va dire, en soi, parce que je ne veux pas rallonger, je veux revenir au cœur du message. Aucune parole de Jésus à ce stade n'est rapportée dans Marc. Elles seront rapportées ailleurs, mais pas dans Marc. Et je pense que Marc a raconté ça d'une manière très spécifique. Et je ne vais pas faire aujourd'hui un panorama complet de la crucifixion de Jésus, parce que déjà on l'a étudié dans Luc. Et puis ça rallongerait, ça n'a pas d'intérêt. Je crois que l'intérêt, il est dans ce que Marc veut nous dire spécifiquement. Et puis il y a la période midi 15h et la mort de Jésus. Il y a une seule parole d'agonie de Jésus sur laquelle on reviendra. Et puis on a trois témoignages. Trois témoignages qui sont la déchirure du voile, le témoignage du centurion et puis la présence des femmes au pied de la croix. Et enfin la mise au tombeau. La mise au tombeau, en fait, je n'en dirai rien aujourd'hui. Je préférerais qu'on le rattache à la prochaine étude sur la résurrection. Alors Colin, je crois que c'est toi qui dois la faire, je ne sais pas. Mais celui qui fera je préférerais qu'on rattache la mise au tombeau à la résurrection. Alors on pourrait effectivement, comme je disais, comparer entre les évangiles. Mais ce n'est pas ce que je vais faire ce matin. Initialement, j'avais prévu de vous faire un joli plan, trois parties, les acteurs, les accomplissements, tout ça. Et en fait, j'ai changé d'avis hier complètement parce que j'ai été inspiré différemment. Et je me suis dit, ce n'est pas la peine de faire de la paraphrase, d'expliquer des choses qui sont relativement claires. Donc, ce que je vous propose ce matin, je vais souligner quatre éléments essentiels de ce passage. Et puis, je voudrais revenir sur l'intention première de l'auteur. Le cœur du message qu'il a envie de nous transmettre ce matin au sujet de ce texte. Voilà ce que je vous propose. Et ensuite, on fera quelques applications et on conclura. Alors, tout d'abord, quatre remarques. Premièrement, l'extrême faiblesse de Jésus. Jésus est tellement épuisé par les coups, la maltraitance, qu'il lui faut quelqu'un pour porter sa croix. Et c'est Simon de Cyrène. On constate que Jésus meurt très vite. D'ailleurs, il était question de venir briser les jambes des prisonniers, c'est dit dans d'autres évangiles. Et quand on est venu pour briser les jambes des prisonniers, des crucifiés, Jésus était déjà mort. Donc il n'y a pas eu besoin de lui briser les jambes, ça a permis aussi d'accomplir une prophétie, qu'aucun de ses os ne sera brisé. Et puis on voit que Jésus reste courageux. Il refuse toute atténuation de la douleur, il va jusqu'au bout. Il aurait pu prendre la myrrhe pour soulager ses souffrances, mais il refuse la myrrhe parce qu'il boit la coupe jusqu'au bout. Il l'a dit à Gethsémané, « Ne boirai-je pas la coupe que mon Père m'a donnée à boire ?» Première remarque, très faible, extrême faiblesse de Jésus, complètement dénué. Lui, le créateur de l'univers, le créateur de toutes choses, il est faible, probablement nu ou quasiment nu sur la croix. Ça m'amène à vous dire deux mots de la crucifixion, on l'a déjà vu dans Luc, donc je ne vais pas insister. Mais la crucifixion, c'était une humiliation publique dans d'atroces souffrances pour des criminels. Pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça, les Romains? Pour dissuader d'éventuels candidats futurs au mal, à faire le mal. On humiliait publiquement les gens en les dénudant complètement et en les laissant mourir à petit feu, c'était horrible. J'en dirai pas plus. Relisez Luc, parce que Luc est médecin, il est beaucoup plus détaillé dans les conditions de la crucifixion. Marc, ce n'est pas son propos. Troisièmement, on pourrait signaler le comportement très différent des acteurs de ce drame. Je ne vais pas les détailler parce qu'il y en a beaucoup, mais ça va de l'insulte jusqu'à la lamentation. Donc là encore, le texte est clair et je ne vais pas y revenir là-dessus. Et ça illustre bien ce caractère manichéen de la mort de Jésus dont je parlais. Hein, d'un côté, on est pour ou on est contre Jésus, mais en tout cas, ça ne laisse pas indifférent. Et puis, il y a quand même, très intéressant, trois accomplissements prophétiques qui sont signalés par Marc. Hein, je vais quand même les détailler un petit peu. Hein. Et pourquoi c'est important dans la bouche de Marc ? Parce qu'un accomplissement prophétique, ça veut dire que ça a été prévu. Si ça a été prévu, c'est qu'il y a un plan derrière. S'il y a un plan derrière, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui contrôle ce plan. Et que la mort de Jésus, ce n'est pas un hasard. Je me souviens quand j'avais 14 ans, je crois, ou ouais, un truc comme ça, mon grand-père m'avait amené à la projection du film de Franco Zeffirelli. Hein, c'était le premier, je crois, enfin, un peu grand public, où il y avait un Jésus aux yeux bleus sur la croix, il était dans une santé rayonnante, etc. Et je n'étais pas, chrétien à l'époque, je n'étais pas converti, je ne comprenais pas grand-chose. Et je me suis dit, en sortant du film, c'est quand même injuste, hein, Jésus est mort, bon, bah, tant pis, hein, il est mort. Vous voyez, comme quoi on peut avoir des points de vue un peu spéciaux. Mais ces accomplissements prophétiques nous montrent que Dieu est au contrôle. Il y a des centaines et des centaines de prophéties dans la Bible qui se sont accomplies, pas que pendant la crucifixion. Mais plus vous comprenez qu'il y a des accomplissements prophétiques, plus on se dit, plus je me dis, mais Dieu est au contrôle, il a prévu déjà. Donc ce qui arrive, ce n'est pas un hasard. Quand Jésus parle de la fin des temps en disant il y aura tel signe, etc., et quand on voit les signes s'accomplir, Jésus dit, lorsque vous verrez ces signes, relevez la tête. C'est l'espérance, ce n'est pas un malheur, c'est un malheur. Pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, c'est une espérance pour ceux qui connaissent Jésus. Alors, quels sont ces trois accomplissements ? Premier accomplissement, hein, au verset 28, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Donc ça, c'est une citation d'Ésaïe 53, hein, ce fameux Ésaïe 53, qui parle tellement en détail de ce qui va arriver 700 ans plus tard à Jésus-Christ. Deuxième prophétie, au verset 29, c'est l'attitude des passants qui blasphèment et secouent la tête. Ben, ça, c'est dans le psaume 22, verset 8, on le verra un peu plus loin. Et puis le troisième accomplissement prophétique, c'est un accomplissement un peu plus récent. Hein, toi qui détruis ce temple et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. Ben, ça, Jésus l'a dit en Jean 2, 19, hein, quand il est parlé du temple de son corps. D'accord ? Alors, c'est vrai que cet élément-là, cette prophétie de Jésus, on a essayé de s'en servir contre lui pendant le procès. Ils ont fait intervenir des témoins, mais ils ont dit qu'ils n'ont pas pu retenir cet élément-là parce que les témoignages ne concordaient pas. Et donc, cette parole de Jésus, cette troisième parole de Jésus, est en train de s'accomplir précisément à ce moment-là de l'évangile de Marc. C'est-à-dire, sans le savoir, les passants modifient la parole de Jésus. Parce que Jésus n'avait pas dit que lui détruirait le temple. Jésus avait dit « détruisez ce temple ». Donc, il disait ça aux sacrificateurs, aux Romains, ça c'est prophétique, parce que c'est les sacrificateurs qui ont détruit le temple, qui ont fait condamner Jésus. Mais en même temps, c'est Jésus qui donne sa vie. Donc, ce que disent ici les passants, c'est prophétique. Quand il dit, toi qui détruis le temple, oui, Jésus détruit le temple, parce qu'il se livre lui-même à la mort, il détruit son corps. Donc vous voyez, ici, il y a une prophétie, une double prophétie qui s'accomplit, de Jésus lui-même. Voilà, ceci étant dit, on va rentrer au cœur du sujet. Et je me suis attaché à l'intention de Marc. Vous voyez, je ne suis pas un plan chronologique, c'est suffisamment clair. Et on peut se poser la question, quel est le message que Marc veut nous transmettre ? Qu'est-ce qu'il veut inclure ou pas inclure ? Quel est le point clé de ce passage ? Alors, je vous propose ce matin, on va faire comme dans Columbo. D'accord ? C'est-à-dire, je vais vous donner la réponse tout de suite. Et après, on va voir l'enquête pour montrer qu'on arrive à ça. Vous êtes d'accord ? Vous faites comme ça ? Hein, vous aimez Columbo avec sa 403 ? Ok. Alors, mon hypothèse, c'est que Marc veut s'attacher à nous présenter un serviteur souffrant, humilié, mais persévérant. Hein ? C'est-à-dire la souffrance peut aller avec la persévérance qui va jusqu'au bout de sa mission et qui porte du fruit malgré toutes les épreuves qu'il traverse. C'est ça l'hypothèse que je fais sur le message clé de Marc et le message clé de ce passage. N'oublions pas que Marc dépeint Jésus comme le serviteur par excellence. Je ne reviens pas là-dessus, on l'a vu abondamment. Chaque évangile a un thème clé, d'accord ? Et Marc présente Jésus comme le serviteur par excellence, hein, qui est venu non pour servir, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. D'accord ? C'est le passage clé, c'est le verset clé de l'évangile de Marc. Hein, nous l'avons vu, c'est Jésus qui donne sa vie pour le monde. La question est de savoir, est-ce que, face à ça, est-ce qu'on est prêt, nous, à donner notre vie au monde ? Est-ce que je suis prêt à donner ma vie ? On le chante parfois, hein, « Je te donne ma vie hein, ». C'est un chant de Luc Dumont, « Je te donne ma vie ». D'accord, mais une fois qu'on l'a chanté, est-ce que je suis prêt à donner ma vie hein ? C'est Paul qui disait aux Romains, hein, « Quelqu'un, peut-être, pouvait donner sa vie pour un homme de bien. » Romains 5. « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ a donné et mort pour nous. » Donc Marc, c'est le message clé et la manière avec laquelle Marc va décrire la passion et la crucifixion de Jésus correspond à l'intention qu'il a de transmettre ce message clé. Quelqu'un a dit, je ne sais plus qui c'est, mais que l'évangile de Marc, c'est un récit de la passion de Jésus avec une longue introduction. J'ai trouvé cette formule assez juste. Il passe très très vite, Marc. Il découpe un peu au couteau, il va vite, les événements s'enchaînent. Mais l'idée de Marc, c'est de décrire la passion de Jésus. Et nous voyons ici le cœur de Marc, le point exquis de Marc. C'est le serviteur qui met en pratique ce qu'il a dit là. Marc 10, 45, il est encore dans la foule, il dit ça à ses disciples. Et là, il est en train de le mettre en pratique. Jésus est cohérent. Ce qu'il dit, il le fait et il le met en pratique. Il donne sa vie sur la croix. Et de quelle manière il le fait ? Il y a deux éléments clés qu'il faut retenir. Premièrement, Jésus ne cache pas sa souffrance. Si j'avais été auteur, moi j'aurais caché un peu les choses douloureuses, présenté les choses sous un bonjour. Mais non, Marc, il dit la vérité. Voilà ce qui s'est passé. Jésus ne cache pas sa souffrance, il l'exprime avec sincérité, avec authenticité. Il est vrai. Il n'y a pas de faux semblant, il n'essaye pas de cacher ses sentiments. Mais il supporte la souffrance et il va triompher. Et c'est ça le point important. C'est que nous aussi, on est sujets dans ce monde à la souffrance, plus ou moins importante, jamais aussi importante que celle de Jésus. On ne souffrira jamais comme Jésus, ce n'est pas possible. Mais on a nos souffrances chacun, et j'ai les miennes aussi. Et cet exemple de Jésus qui souffre, qui supporte et qui finit par triompher parce que Dieu est au contrôle, parce que tout ça, c'est voulu dans la main de Dieu. C'est un exemple pour nous, on y reviendra. Il triomphe, il en sort victorieux, et c'est un espoir formidable pour chacun de nous. Si tu souffres ce matin, mon frère, ma sœur, depuis longtemps peut-être, il y a un espoir formidable, c'est que Dieu est au contrôle. C'est un rocher, on l'a dit ce matin, c'est une forteresse. Je peux épancher mon cœur devant lui. On l'a lu dans le psaume 62. Pour nous aider à mieux comprendre encore le message clé de Marc, regardons le choix de la narration par les quatre évangélistes. Et vous savez que Jésus, peut-être vous ne le savez pas, mais je vais vous le dire, Jésus a prononcé sept paroles sur la croix, tout évangile confondu. Donc le récit combiné des quatre évangiles donne sept paroles sur la croix. Mais ces paroles ne sont pas également réparties. Et c'est ça qui est intéressant. On va voir quelle est la vocation de Marc par rapport à ses paroles. Alors, je vais vous faire un petit tableau. J'espère que ça va marcher. Voilà. On va placer les quatre évangiles. Alors, il y a trois paroles qui vont être dites dans la première tranche, la tranche 9h midi. Hein. Jésus est crucifié à 9h. À midi, c'est les ténèbres. Jusqu'à 15h. À 15h, Jésus meurt. D'accord ? Simple à retenir. La première parole, je vais aller vite parce que ça peut faire l'objet de un ou deux messages, mais Voilà. Première parole, elle est dans Luc. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est à destination des soldats. La deuxième parole, c'est le brigand qui confesse Jésus à côté de lui. Et Jésus lui promet une entrée dans le paradis. La troisième parole, c'est le dialogue entre Jésus et Jean. Il confie donc sa mère à l'évangéliste Jean. Ça, c'est les premières heures. Donc, première parole, c'est des paroles qui montrent l'amour de Jésus pour l'humanité. C'est des paroles qui ont vocation de salut. Il n'en veut pas aux soldats, il veut le salut des soldats. Il veut le salut du brigand et il prend soin de sa mère. C'est vraiment... N'oublions pas que Jésus est dans une extrême faiblesse. Il a été battu, fouetté, il est presque à demi inconscient, il ne peut pas porter sa croix. Pourtant, il a une lucidité pour donner ses paroles. Et c'est important à comprendre parce qu'il n'est pas complètement au désespoir, à l'agonie, comme certains peuvent le laisser entendre, on le verra tout à l'heure. Et puis un peu plus tard, dans les trois prochaines heures, il va prononcer quatre autres paroles. Donc, une dans Jean, d'accord, j'ai soif, et on va lui donner donc du vinaigre. Et les deux paroles qui sont juste avant d'expirer, dans Luc, c'est « Je remets mon esprit entre tes mains », et le « Tout est accompli » dans Jean, juste après avoir bu du vinaigre, parce qu'encore une fois, c'est prophétique. Donc là, on a vu six paroles de Jésus. Et vous voyez qu'il y a deux cases là qui sont vides, Matthieu et Marc. Donc je fais durer le suspense, on fait Columbo, d'accord? Alors, il nous reste donc deux évangélistes, et ces deux évangélistes vont répéter deux fois la même parole. Alors vous savez, quand Jésus dit en vérité, je vous le dis, amen, amen, quand Joseph voit le rêve deux fois, qu'est-ce qu'il dit au Pharaon? Si le rêve s'est répété deux fois, c'est que Dieu l'a décidé. Donc ça veut dire que c'est une parole importante. La parole qu'on va voir ici, c'est une parole importante. Vous l'avez lue, elle est dans Marc, elle est dans Matthieu, c'est quasiment exactement la même. Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est la seule des paroles de Jésus qui cite l'Ancien Testament. Alors, on pourrait se dire, tiens, Matthieu citant l'Ancien Testament, c'est un peu normal. Matthieu est un évangile rédigé pour les Juifs, donc il va aller puiser dans l'Ancien Testament. Mais Marc, c'est un peu plus bizarre, d'accord? Bon, l'évangile de Marc, Marc n'est pas un témoin oculaire, vous le savez bien. Donc Marc a été largement inspiré par l'apôtre Pierre, qui, au moment de la crucifixion, était un peu loin de la croix. Il suivait Jésus de loin, nous dit-il. Il était dans ses remords, dans sa tristesse d'avoir renié Jésus. Donc si Marc exprime cette parole, c'est que là, il y a une importance qu'on va essayer de voir. Alors, Eloi, Eloi, lama sabachthani, c'est une citation du psaume 22. D'accord? Ce qui est intéressant à noter, c'est que la parole est prononcée en hébreu et Marc la traduit dans la langue du Nouveau Testament. Alors, on a l'habitude de dire c'est le grec. Mais en fait, on n'en est pas si sûr. On n'en est pas si sûr parce qu'à l'époque, les langues, on sait qu'aujourd'hui, les plus anciens manuscrits sont en grec. Mais si vous voulez comprendre un petit peu cette histoire de langue, à l'époque de Jésus, l'hébreu, c'était la langue religieuse. Donc c'est comme si maintenant, on se projetait, on disait c'est le latin pour les catholiques. Vous savez, c'est la langue que pas grand monde comprend. Il y a quelques latinistes encore, mais ça se perd. Donc c'est la langue des experts, ce n'est pas la langue de tout le monde. C'est pour ça que Marc doit la traduire dans une langue que ses lecteurs connaissent. Mais on n'est pas sûr que ce soit le grec. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les gens, ils parlaient araméen. Ils parlaient araméen. Le grec, c'était la langue un peu internationale. Si on veut se projeter dans l'époque actuelle, c'est l'araméen, c'est le français, et puis le grec, c'est l'anglais. Quand je veux écrire un article scientifique, je l'écris en anglais directement, même si je suis français. Pourquoi? Parce que je me projette dans une langue internationale. Bref, ce simple verset 34, donc, a une importance parce qu'il est donné dans une langue, l'hébreu, et il est traduit dans une autre langue, pour le lecteur, peu importe, grec ou araméen. Et potentiellement, ce verset pourrait être une métaphore de la signification profonde du verset. Je m'explique, c'est un peu fumeux ce que je vous dis peut-être, alors je vais essayer d'expliquer. L'hébreu n'est pas bien compréhensible pour la majorité des gens qui écoutaient. Il y avait les religieux qui connaissaient l'hébreu, mais ce n'est pas bien compréhensible. Donc Marc doit la traduire dans une langue du peuple. Et quand je dis que ce verset est une métaphore, ça veut dire que la signification du verset qui saute aux yeux au départ, parce que quand on lit ça finalement, on se dit, tiens, Jésus, il dit, ça y est, je suis abandonné de Dieu. On me laisse tomber. Dieu me laisse tomber, il ne pense pas à moi. Une première lecture, ça pourrait laisser penser à une parole de désespoir, une parole d'échec, à un doute, peut-être même une accusation contre Dieu. Vous voyez, une première lecture, c'est ça. On se dit, tiens, Jésus, il est tellement désespéré, il est tellement aux abois, il va peut-être perdre connaissance dans quelques secondes, alors il lâche vraiment son dernier soupir. Et donc, on a besoin d'avoir une traduction de la réalité de ce verset pour comprendre ce que Marc voulait dire. De la même façon que la langue utilisée pour ce verset au départ a besoin d'être traduite. Vous comprenez mieux, là ? Hein ? Une traduction. Alors, on va essayer de traduire ce que signifie réellement cette parole de Jésus. Parce que désespoir, doute, échec, ça, c'est ce qu'ont dû penser les témoins incrédules. Ah, finalement, Dieu, il a... Si Dieu est bon, pourquoi est-ce qu'il a permis que Dieu soit, Jésus soit crucifié? Ça veut dire qu'il n'est pas avec lui. Ils assistent à l'impuissance de Jésus. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Jésus, il était bien, mais ça n'a pas marché. Ah, ce Messie qui devait nous délivrer des Romains, ben non, finalement, il échoue. Là, il est en train de mourir sur la croix. C'est foutu. Vous voyez, les incrédules, ils vont interpréter comme ça. Mais nous, on n'est pas incrédules. On va comprendre ce que signifie ce verset. On ne veut pas être comme les disciples d'Emmaüs. Alors, pour bien le comprendre, je vais prendre encore quelques minutes. Eh bien, on va lire le psaume 22. Parce que vous voyez ce que Paul écrit aux Corinthiens. Il dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour les incrédules, pour ceux qui périssent. Il y a un voile. On a besoin, pour comprendre ce verset, on a besoin d'enlever le voile pour voir briller la splendeur de l'évangile, la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et pour ça, eh bien, je vous propose de lire le psaume 22 dans sa totalité, pas juste le petit extrait. Alors, on va prendre le temps de lire le psaume 22, parce qu'il est vraiment très, très riche, ce psaume 22. Vous le connaissez, vous l'avez lu, mais on va le relire avec un nouveau regard, ce regard de la crucifixion de Jésus dans Marc. Psaume 22, verset 1. Au chef de cœur sur biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Voilà, ça c'est ce qui est cité par Jésus. Il faut imaginer, croyez-le par la foi, mais je pense que c'est vrai, il faut imaginer que Jésus n'a pas juste cité ce verset comme ça au hasard, que Jésus peut-être s'est récité l'ensemble du psaume 22. Parce que l'ensemble du psaume 22 est un porteur d'espérance. Vous verrez entre le début et la fin ce que ça donne. Au début, il y a des plaintes, il y a des gémissements. Mes paroles plaintives sont loin de me procurer le salut. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit, je ne garde pas le silence. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient, tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils échappaient. Ils se confiaient en toi, ils n'étaient pas dans la honte. Et moi, je suis un ver et non un homme. Le déshonneur des humains et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent les lèvres, ils hochent la tête. Voilà le fameux verset auquel les passants faisaient référence. Remets ton sort à l'Éternel, petite lueur d'espérance, l'Éternel le libérera. Il le délivrera puisqu'il l'aime, c'est vrai. Oui, tu m'as tiré du ventre maternel, tu m'as confié au sein de ma mère, sur toi j'ai été jeté dès les entrailles maternelles, dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient d'un bon secours. De nombreux taureaux m'environnent, des taureaux du Bazan m'environnent, ils ouvrent contre moi leur gueule, comme un lion qui déchire et rugit. En lisant ça, remettez-vous en perspective tous les gens qui se moquaient de Jésus, qui l'ont frappé, qui ont craché sur lui. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se disloquent, mon cœur est comme de la cire, ils se fondent au milieu de mes entrailles, ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais, tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'entourent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds, c'est une autre prophétie. Je compte tous mes os, eux ils observent, ils arrêtent leur regard sur moi, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Encore une autre prophétie qui est racontée dans d'autres évangiles, notamment l'évangile de Luc, je crois, si j'ai bonne mémoire. Non, c'est dans Matthieu. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Vous voyez, là il y a une prière. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours, délivre mon âme de l'épée, ma vie du pouvoir des chiens, sauve-moi de la gueule du lion et des cornes du bœuf. Tu as répondu. Voyez, dans ce psaume, le psalmiste commence par une lamentation, il finit par une note d'espoir. Tu as répondu. Et là, il y a une louange qui s'élève vers Dieu. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te louerai au milieu de l'assemblée. Je saute au verset 25, car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du malheureux, il ne cache pas sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Verset 27, les humbles mangeront et se rassasiront. Verset 29, verset important, car le règne est à l'Éternel, il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui plieront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. Ça concerne tous les incrédules qui entourent la croix. La postérité lui rendra un culte, on parlera du Seigneur à la génération future, on viendra annoncer sa justice au peuple qui naîtra, car l'Éternel a agi. Voilà. Donc, il est fort probable que Jésus ait fait référence à l'ensemble du psaume, et pas juste ce cri de désespoir dont on a parlé. Tout le psaume est messianique, hein. On ne le sait pas, parce qu'aucun des évangélistes ne le cite. Mais si on a une lecture de cette parole qui est donnée à la fois dans Matthieu et dans Marc, on a une autre lecture. Voyez, encore une fois, Paul insistait là-dessus. Nous prêchons Christ crucifié, manichéisme, scandale pour les uns, puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Donc le psaume commence par une souffrance injuste du serviteur fidèle. Et il se termine par une note d'espérance, une confiance dans la victoire totale de Dieu. Et on lit au verset 29, « Car à l'Éternel appartiennent le règne, l'Éternel domine sur les nations. » Alors certes, on a l'habitude de dire que le Père détourne momentanément le regard de son Fils, qui là, sur la croix, est chargé des péchés du monde entier. Mais c'est Dieu qui est souverain à la fin du passage. Et ce psaume est un psaume d'espérance. D'accord. Ce qu'on lit dans la bouche de l'apôtre Paul, c'est que Dieu détourne certes le regard, mais en même temps, Dieu était en Christ. À ce moment même de Jésus mourant sur la croix, Dieu est en lui. Pour réconcilier le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Dieu est en Christ à ce moment-là, et il prêche la réconciliation de tous les hommes avec Dieu. On est là à la limite de la compréhension humaine. Je ne peux pas aller plus loin rationnellement. C'est le mystère de la croix. On a d'un côté un Dieu qui ne peut vivre en présence du péché et qui charge sur Christ, comme un agneau sans tache, tout le péché de l'humanité. À ce moment-là, sur la croix, il porte tout le péché de l'humanité, passé, présent, futur. Et en même temps, Dieu est en Christ. Et ça, je ne peux pas le comprendre, ça dépasse mon entendement. Alors, il faut juste l'accepter par la foi. C'est ça, la foi. Et la lumière du psaume 22, de l'ensemble du psaume 22, on peut en déduire que le dernier cri de Jésus du psaume 37, de Marc, dans ce qu'on a lu au verset 37, ce n'est pas un cri de désespoir, mais c'est un cri d'espérance. Il rend l'âme, mais c'est un cri d'espérance, parce qu'il sait que derrière, il y aura un triomphe futur. Et vous voyez, quand je méditais ce texte, je pensais à, ça n'a peut-être rien à voir, mais pour ceux qui connaissent, il y a des pianistes parmi nous, le cinquième concerto de Beethoven, l'Empereur. Vous savez, la partie andante et centrale, où le piano joue tout doucement. Et d'habitude, il y a des parties, hein, les concertos sont en trois parties, puis il y a des arrêts, alors le public en général, dans les concerts, ils toussent, etc., il y a des gens qui se mouchent, puis après, il y a la troisième partie. Et là, le concerto, il est en continu, c'est-à-dire que le piano joue doucement, et soudain, et ça part. Eh bien, moi, je pense que ce passage de l'Écriture, il est comme ça. C'est-à-dire qu'au moment où Jésus meurt, s'enclenche la phase victorieuse. Et c'est pour ça que Marc rapporte tout de suite la suite des événements. Dès que Jésus meurt sur la croix, le voile se déchire en deux. Vous connaissez la symbolique, le voile, il se déchire du haut en bas. Ça veut dire quoi, du haut en bas? Ça veut dire que, impossible, le voile, il est accroché à 6 mètres de haut. Personne ne peut aller le chercher pour le décrocher. À la limite, deux personnes pourraient le déchirer de bas en haut, mais de haut en bas, c'est une action divine. Le voile se déchire, ça veut dire que c'est fini. La séparation lieu saint, lieu très saint, où Dieu réside, c'est fini. On a un accès libre auprès de Dieu. Le voile se déchire et tout de suite, on a le centenier. Hein. Le centenier, c'est le chef des soldats. D'accord ? Il confesse, il dit, cet homme est le fils de Dieu. C'est le deuxième converti après le brigand. D'accord ? Deux païens qui se convertissent. Ce n'est pas les juifs qui se convertissent en premier. Il y a le brigand sur la croix et le centenier qui se convertit. Vous voyez, vous avez un enchaînement quand on lit ce psaume. Vous relirez, pardon, pas ce psaume, ce texte. Vous relirez le texte de la crucifixion chez vous avec cette optique-là, cette optique d'espérance, ce psaume 22 où il y a tout derrière, hein, non seulement la souffrance du serviteur injuste, mais aussi l'espérance future. Ça va changer votre perception de tout ça. Donc, vous voyez, la croix, il y a deux perspectives, deux interprétations, selon que l'évangile soit voilé ou révélé, et la croix est une puissance ou une folie. C'est à chacun de nous de décider. Allez, rapidement, quatre applications, parce que le temps passe. Je voulais prendre du temps pour vous expliquer ça. Je pense que ça valait la peine. Quatre applications. Première application, hein, il y a une seule, je vous dis, des paroles de Jésus qui nous est rapportée par Marc. C'est celle qu'on a commentée, d'accord ? Donc si Jésus a pu épancher son cœur devant le Père, réciter ce psaume 22, ça veut dire que nous, on peut réciter aussi. Moi aussi, je peux prendre le psaume 22 et lui dire « Des taureaux m'environnent, je suis environné par les angoisses, j'ai des problèmes financiers, mon voisin m'en veut, la maladie m'étouffe. » Je peux épancher mon cœur devant le Père, parce que le Père, il écoute, il est un rocher, il est un Dieu d'espérance, on l'a vu en introduction avec Jérémie. Et si Jésus a cité ce psaume, moi aussi je peux exprimer ma souffrance au Père. Et dans ce psaume, David, qui est l'écrivain du psaume, inspiré par l'Esprit, en fin de psaume, Dieu lui met dans le cœur des paroles d'espérance. Et beaucoup, dans beaucoup de psaumes, il y a au moins une dizaine de psaumes où David commence complètement désespéré et termine finalement dans un débordement de louanges. Pourquoi ? Parce que la parole est créatrice. Quand je vais exprimer ma souffrance, Dieu écoute et Dieu répond à ça. Il met dans ma bouche un cantique nouveau, une parole d'espérance. Épanchez vos cœurs devant lui. Il est notre rocher, on l'a lu dans le psaume 62. Deuxième application, c'est l'attitude exemplaire de Jésus dans l'épreuve et la souffrance. Là, ça me parle. Jésus, il a eu des paroles d'amour à destination des hommes. Il a su dire « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Quand Jésus enseigne « Priez pour vos ennemis », il le fait, il le démontre. Jésus ne se lamente pas, il ne maudit pas, il ne lance pas d'imprécations, mais il s'attend à la souveraineté de Dieu au travers du psaume 22. Et dans ces heures sombres, il persévère, il garde le silence. Marc est très sobre sur ses paroles. Hein, une seule parole rapportée, alors que plein de gens l'insultent autour de lui. Mais Jésus préfère garder le silence. Et il résiste à la tentation du diable par le silence. Parce que le diable va venir le tenter une dernière fois. Bien sûr, vous avez compris, au travers des patients qui lui disent « descends de la croix », il y a le malin qui dit « tiens, si je peux faire échouer la mission de Jésus, je suis gagnant ». Ben non, Jésus garde le silence. Parfois, il faut savoir garder le silence et ne rien dire. Et ne pas descendre de la croix. Je repensais aussi, pendant la méditation, à ce film, hein, « Darkest Hours », c'est le film qui raconte un peu la période du printemps 1940 en Angleterre, hein, quand Hitler avait envahi toute l'Europe, la Grande-Bretagne était ultra menacée, et il y avait un cabinet dirigé par Neville Chamberlain, qui était pour pactiser, qui était un peu dans le, vous voyez, un peu soft, on ne veut pas faire de vagues et tout. Et à un moment donné, c'est Churchill qui l'a emporté, parce que lui, il était pour la résistance. il était pour la résistance, et ça raconte, c'est un très beau film, hein, qui doit avoir peut-être une quinzaine d'années maintenant, avec Gary Oldman, qui est magnifique dans le rôle de Churchill, et ce même Churchill, donc, qui va aider l'Angleterre à tenir bon pendant ces années, voilà ce qu'il dira, c'est le courage de continuer qui compte. Alors ma question ce matin, est-ce que tu es en train de souffrir, toi mon frère, toi ma sœur, est-ce que tu es en train de souffrir de différentes manières, peut-être depuis longtemps? Eh bien Jésus est un modèle, un exemple que tu peux suivre, parce que la Bible nous dit que nous n'avons pas un sacrificateur, un souverain sacrificateur, miséricordieux et compatissant qui ne peut compatir à nos faiblesses. Il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Voilà, on a un exemple en Jésus de souverain sacrificateur. Je vous donne la référence pour ceux qui notent Hébreux 4:15. D'accord ? Troisième application pour nous. Quelle est ma position par rapport à la mort de Jésus ? Et ça, c'est vraiment important. Quelle position je vais prendre aujourd'hui par rapport à la mort de Jésus ? Est-ce que je vais prendre la position des incrédules ? Ou est-ce que je vais prendre la position de ceux pour qui l'Évangile est une puissance ? Et c'est un choix que j'invite chaque personne ici, jeune ou moins jeune, à prendre dans sa vie. Si aujourd'hui tu n'as pas pris position pour Jésus, si ce texte t'a touché aujourd'hui, eh bien je t'invite à donner ta vie à Jésus, à prier pour que Jésus pardonne tes péchés, qu'il rentre dans ton cœur, qu'il donne ton Saint-Esprit. Voilà, si tu as des doutes, si tu hésites, va voir quelqu'un, un ancien de l'Église, une personne que tu connais, en qui tu as confiance, qui pourra t'expliquer peut-être mieux que moi pour aujourd'hui le message en question. En tout cas, que Dieu nous inspire, parce qu'il y en a pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, mais il y en a aussi pour ceux qui connaissent Jésus, un exemple de gestion de la souffrance, de l'injustice, en se référant au Dieu d'éternité qui seul connaît toute chose dans le futur. Voilà, prions. Notre Dieu, merci encore pour ce magnifique texte que tu as permis à Marc de nous transmettre. Merci aussi pour l'espérance que tu nous donnes, le pardon de nos péchés. Merci de t'être offert gratuitement pour le salut de nos âmes. Seigneur, nous te louons, nous t'adorons pour ta sagesse. Tu es le Dieu d'éternité. Maintenant, tu es ressuscité. Tu es assis à la droite de Dieu. Tu domines sur le monde entier. Tu intercèdes pour chacun de nous. Seigneur, je te prie pour chaque frère et sœur, chaque bien-aimé ce matin dans cette salle, pour qu'ils ne ressortent pas indifférents, qu'ils puissent prendre les décisions qu'il a à prendre pour lui, dans sa vie, qu'ils puissent te donner ta vie, Seigneur, recevoir le pardon de tes péchés. Tu es un Dieu plein de grâce. Merci encore. Amen.
Merci Pierre pour ces rappels fondamentaux. Nous arrivons donc maintenant à la fin de ce temps de culte. J'aimerais juste poser une petite question. Est-ce que, en termes de logistique d'organisation, peuvent lever la main ceux qui restent pour l'Agape et qui restent cet après-midi? Aurore. Alors, non, c'est un repas tiré des sacs, pardon. Oui, non, c'est pas une Agape. C'est un repas tiré des sacs, pardon. Ok. En fait, c'est juste pour voir s'il serait plus cohérent de rester à la cuisine pour manger. Et est-ce que ça ne serait pas plus simple? Ou alors, est-ce qu'on installe ici? Ah oui, ouais, donc on va peut-être quand même manger ici. Alors.
Non, mais après, il y a une salle.
On met une table à côté pour ne pas tout déranger ici? Ok. Ça marche. Dans la mesure où ça commence à 14h, ceux qui ont le repas tiré des sacs, peut-être on va essayer de faire ça rapidement. Voilà, désolé pour ça.